Bonsoir tout le monde et bienvenue au stade de Saputo pour ce match de soccer entre l'Impact de Montréal et les Red Bulls de New York. Mon nom c'est Jérémy Filosa, accompagné de l'analyste pour le match de ce soir, Arcadio Marcuzzi. Salut Arcadio!
Salut Philo, bonsoir tout le monde!
Arcadio, match encore une fois d'une importance capitale pour l'Impact. Ils le sont tous, hein. Je pense qu'on en a parlé un peu la semaine dernière avec le match, même il y a deux semaines, contre Chicago et maintenant Toronto et cette fois-ci les Red Bulls de New York. Ce sont des matchs où l'Impact doit absolument aller chercher des points. Cette course aux séries, elle est endiablée, elle change de visage pratiquement à tous les trois jours alors qu'il y a des matchs. La bonne nouvelle pour l'Impact, c'est qu'ils sont installés au sixième rang et ils y sont depuis un bon bout de temps. Arcadio, quand on regarde là, la saison complète, là, ça fait depuis le mois de juin que l'Impact occupe une place parmi les six premiers. Mais bien sûr, il y en a d'autres qui menacent et tout cela. Heureusement, il y a eu quand même quelques résultats intéressants pour l'Impact cette semaine, ce qui a fait en sorte que Montréal demeure au sixième rang et peu importe ce qui arrivera ce soir, l'Impact va demeurer encore une fois ce week-end dans le portrait des séries éliminatoires. Commençons avec l'alignement partant pour ce soir. Il y a quelques changements. Premièrement, bon, vous le savez, ceux qui suivent l'actualité de l'Impact, Rudy Camacho a pris un coup à l'entraînement cette semaine, c'était mercredi. Finalement, s'est entraîné le reste de la semaine, mais clairement, bon, il n'est pas à 100% puisque c'est Yuka Raitala qui va venir prendre sa place en défensive centrale. Donc, Raitala, parfois laissé sur le banc, parfois il joue sur les flancs. Là, il revient dans la charnière centrale. C'est vraiment l'homme passe-partout de l'Impact, là, disons.
Le couteau suisse de Rémi Garde, ouais, le Finlandais qui fait, du très bon boulot, plus souvent qu'autrement hors position. On sait que lui, c'est un latéral gauche de formation et on l'a utilisé au milieu à droite, pas souvent à gauche.
C'est vrai.
Le pauvre, mais il rend de fiers services, toujours efficace en espérant que ça se poursuive ce soir, aux côtés évidemment de Rod Fanny qui quand même transmet toujours une certaine tranquillité là, oui, à ses partenaires à côté de lui.
Et normalement, ça s'est bien passé entre Raitala et Fanny cette saison, la communication. Ce que j'aime moins, Arcadio, c'est que pour compléter là, sur le dossier des défenseurs, on passera au reste de l'alignement après. Là, mais cette semaine, quand on a posé la question à Rémi Garde par rapport à Zakaria Diallo, comment va Diallo? Oui, il prend du mieux. Oui, il s'améliore. Mais il a joué quelques matchs contre des équipes universitaires. Et là, Rémi Garde nous dit, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Et on revient encore toujours au même sujet. Bon, malheureusement, si on avait une équipe réserve, Zakaria aurait pu jouer là. Et peut-être que, sait-on jamais, il serait peut-être prêt à revenir au jeu. Mais pour l'instant, il n'y est pas. Et ça fait mal parce que le timing serait idéal ce soir là, pour voir un gars comme Diallo dans l'alignement.
Surtout pour ce qu'il peut amener sur le terrain et aussi pour qu'il prenne un peu, il retrouve ses repères, il joue ses premières minutes avec l'Impact de Montréal, il recommence à jouer dans le dernier droit de la saison. Potentiellement, c'est un gars qui, s'il prend son air d'aller en ce moment, ben, pourrait aider dans une éventuelle participation aux séries. Donc, vraiment, comme tu le dis, c'est encore une fois une occasion ratée due au manque d'équipe réserve. Là, à un moment donné, je pense que ce sera quelque chose qu'on devra considérer sérieusement du côté de la direction de l'Impact parce que ça cause des maux de tête qui sont pas nécessaires. Là, et c'est, comme je le disais, là, des opportunités manquées, malheureusement.
Ben oui, c'est si tes joueurs blessés n'ont pas d'endroit où jouer pour reprendre la forme, c'est un problème. Puis là, on parle pas juste des jeunes, mais on parle ici d'un joueur vétéran, un joueur établi. Et moi, je peux pas croire, Arcadio, que quand on va revenir à l'action dans deux semaines, puisque la semaine prochaine, l'Impact est en congé, c'est une semaine internationale, plusieurs joueurs vont retrouver leurs équipes nationales, que dans deux semaines, Diallo sera pas prêt. Là. À un moment donné, ça fait un mois et demi qu'on nous dit ça s'approche. Là, il va bien falloir qu'il joue, ce gars-là. Là.
Ben écoute, ce qui est bien, c'est que vendredi, il y a un match amical contre le Fury à Ottawa. J'ose croire que Diallo jouera une bonne quantité de minutes. Là, pour s'il est en mesure de jouer les 90, tant mieux.
Tant mieux.
Au moins une heure de jeu, il devrait avoir. Donc, ça va aider. Et ça sera un bon niveau, j'imagine. Donc, de ce côté-là, ça va être, on va pouvoir profiter justement de cette pause internationale pour donner des minutes à Diallo, peut-être en vue d'un premier départ éventuellement.
Alors, en défensive, Daniel Lovitz, Yuka Raitala au centre avec Rod Fanny et Bakary Sagna obtient son troisième départ sur le flanc droit en défensive. Evan Bush devant le filet. Au milieu de terrain, un petit changement. Safir Tyler est là, Samuel Piette aussi. Et c'est Michael Azira qui prend la place de Ken Kralicki. On en a parlé assez souvent. Je pense que c'est justifié, c'est logique. Encore une fois, Ken Kralicki a donné beaucoup de soccer à l'Impact cette saison pour un joueur qui sort des rangs universitaires. Donc, il est là, Ken Kralicki, mais il va débuter le match sur le banc. Donc, Michael Lazira va partir le match au milieu de terrain aux côtés de Piet et Tider. En avant, eh bien, Piatti à la gauche, Silva à la droite. Et finalement, c'est Quincy Amerikwa qui va obtenir un départ.
Ouais.
Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Semble-t-il que Amerikwa avait dit lui-même à garde avant le match à Toronto, « Je ne suis pas encore fin prêt à jouer 90 minutes. » J'ai de la difficulté à comprendre ça, Arcadio. Le joueur, il était actif à San Jose, il n'était pas blessé. C'est vrai qu'on ne se servait pas de lui pour 90 minutes très souvent. Il n'était pas partant. Mais de voir qu'un joueur en plein milieu d'une saison n'est pas capable de jouer 90 minutes et qu'il dise à l'entraîneur, je trouve ça un peu bizarre. Mais là, il est prêt. Là. Clairement, il est prêt.
C'est vrai que c'est un peu inusuel. Il faut comprendre aussi qu'Amerikwa, lui, il a une blessure quand même assez sérieuse
c'est
au genou. Il y a environ un an et demi, ça a été une longue convalescence. Et je pense qu'il y a encore un certain traumatisme par rapport à ça. Je pense qu'il veut, ne rien laisser au hasard. Il y a aussi peut-être le fait qu'il s'adapte encore aux techniques quand même rigoureuses de Robert Duverne, le préparateur physique de l'Impact de Montréal, qui en a fait baver et qui a une réputation internationale, disons, de bourreau d'athlètes. Peut-être que Quincy Amerikwa, choc culturel de ce côté-là, qui est pour le mieux, mais qui, évidemment, peut-être lors des premières semaines, a été difficile pour lui. Mais aussi bien, écoute, si un joueur ne sent pas qu'il est à 100%, c'est vrai que c'est pas très commun de l'entendre. Les joueurs, ils veulent toujours jouer. Et puis même s'ils ne se sentent pas à 100%, ils ne le diront pas. Mais un vétéran, venant d'un vétéran comme Quincy Amerikwa, un gars qui commence dans une nouvelle équipe, je pense qu'il ne veut pas rater sa rentrée. Il ne veut pas nuire non plus à sa nouvelle équipe. Et c'est tout à son honneur d'avoir été transparent avec l'entraîneur.
On va espérer que Quincy Amerikwa connaisse du succès ce soir. Matteo Mancosu se retrouve sur le banc, donc c'est un deuxième match comme substitut pour Mancosu depuis le coup qu'il avait reçu à l'entraînement il y a deux semaines. Mais ça veut aussi dire qu'Anthony Jackson-Hamel, encore une fois, malheureusement, n'est pas habillé. On a parlé d'Anthony Jackson-Hamel cette semaine avec l'entraîneur Rémi Garde qui nous a quand même clairement fait comprendre que, bon, il est encore revenu sur... Le sujet du travail.
Ouais.
Il a dit il a eu quelques bonnes sorties, mais pas beaucoup. Et plus souvent qu'autrement, je suis resté sur mon appétit. Mais c'est quand même un gars qui a marqué 9 buts la saison dernière. Je sais pas si c'est gagnant de toujours punir, toujours punir, toujours punir. Parce qu'à un moment donné, dans une situation semblable où Jackson, tu t'en souviens, au début de saison, était un peu aussi dans le doghouse de l'entraîneur. Et dès qu'il lui avait donné la chance, il avait marqué 2 gros buts dans un match. Donc, je me demande si... Tu sais, des fois, tu as besoin... Tu as des gars qui doivent être... tu sais, qu'il faut flatter dans le bon sens du poil. Puis peut-être que Jackson, c'est ce gars-là. Je ne sais pas, mais moi, je vois pas comment l'Impact peut gagner avec un Jackson qui... Pas gagner, parce qu'ils peuvent gagner des matchs, mais tu peux pas être gagnant en gardant un gars éternellement à l'extérieur de l'alignement. Surtout pas un jeune joueur comme ça.
Oui, je comprends ton point. En même temps, je pense que dans la saison avec l'ajout d'Amerikwa, je pense que le temps était venu de lui donner un départ pour essayer de voir qu'est-ce qu'il a dans les jambes, voir qu'est-ce qu'il peut donner.
Pas de problème avec ça.
Bon, sur le banc, évidemment, on a Mancosu. Peut-être qu'on aurait pu laisser Mancosu de côté et habiller Jackson.
Ou peut-être...
Ou Vargas, peut-être.
Au lieu d'y aller avec 3 milieux, 2 milieux, 2 attaquants, je sais pas, sur le banc, ça aurait pu...
Voilà. Je trouve pas la décision, disons... difficile à comprendre dans le sens quand je vois l'équipe sur papier et les joueurs sur le banc. C'est une décision. Jackson, je pense que dans la hiérarchie en ce moment, il s'est mis lui-même à cette place-là et Rémi Garde reste. C'est pas nécessairement un affront envers Jackson, c'est surtout une marque de respect envers les autres. Après, on peut être d'accord ou pas là, avec le coach, mais je pense que c'est ça, disons, sa logique, la logique à Rémi Garde. Et Jackson, encore une fois, et on en parle souvent et on en parlait même quand c'était Mauro Biello qui était aux commandes de l'Impact de Montréal. Il faut que ça s'améliore, il faut que ça se bonifie en termes d'efforts, en termes de sérieux au travail, ainsi de suite, de d'éducation. Donc, de ce côté-là, la balle est dans son camp, je pense. C'est à lui de démontrer qu'il veut vraiment performer, qu'il veut vraiment bien faire avec l'Impact de Montréal. C'est vrai qu'il a connu une belle saison l'année passée, mais il ne faut pas qu'il s'assoie sur ses lauriers.
Non.
Jackson est capable de beaucoup mieux que ça. Moi, c'est un gars que j'ai toujours aimé voir sur le terrain, mais en même temps, quand tu as deux coachs qui répète un petit peu les mêmes choses par rapport justement à son éthique de travail, ça peut pas être un hasard. Ça peut pas être un hasard. Voilà.
Écoute, moi il y a une chose avec Rémy Garde que j'apprécie pour certaines choses, hein, vraiment depuis son arrivée, mais je le trouve un petit peu, puis le mot n'est pas péjoratif, là, je veux pas l'utiliser de façon péjorative, mais il est un peu têtu. Quand il a pris sa décision, quand il a décidé de ce qu'il pensait d'un gars, c'est très difficile de le faire changer d'idée. Parlez-en à Dominic Oduro, entre autres. Moi, j'aimerais des fois le voir un peu...
mettre de l'eau dans son vin.
Un petit peu. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, c'est ça que ça donne le 11 partant pour l'Impact de Montréal ce soir. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Au retour de ceci, on va parler de plein d'autres sujets. On va parler des Red Bulls qui vont très bien, soit dit en passant, pour qui c'est le troisième match en 6 jours. On va parler un peu de la reprise vidéo parce que on a eu la chance d'en parler avec Rémy Garde, Daniel Lovitz. Et moi, ce matin, j'ai parlé à quelqu'un qui est sur le terrain présentement. Je ne vous dirai pas qui, là, mais si tu regardes, là, tu vas être capable de le voir. Je ne vais pas l'identifier, mais il m'a donné des informations assez intéressantes sur l'arbitrage et la reprise vidéo. Puis je veux partager ça avec vous au retour de ceci. Vous écoutez l'émission d'avant-match du soccer de l'Impact de Montréal en direct du Stade Saputo sur une station Cogeco.
Avec Jérémy Filosa à la description et Arcadio Marcuzzi à l'analyse, au réseau Cogeco, vous écoutez le soccer de l'Impact.
Voilà de retour au stade de Saputo pour ce match de soccer entre l'Impact et les Red Bulls. Un match qui va débuter dans une quinzaine de minutes. Les joueurs des deux équipes quittent le terrain. L'échauffement vient tout juste de se terminer. Ce ne sera pas un match facile ce soir pour l'Impact qui affronte la meilleure équipe de la MLS, les Red Bulls de New York. Mais commençons avec l'histoire des reprises vidéo. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure les propos de Daniel Lovitz et de Rémy Garde là, qu'on vous a fait entendre, Mario Langlois et moi. Bon, clairement, les joueurs et les entraîneurs ne savent pas trop sur quel pied danser par rapport à la reprise vidéo. Je vais simplement vous rappeler ce que j'ai vu dans les trois derniers matchs de l'Impact. Bon, il y a trois matchs contre Chicago. Contre DC United. DC a marqué un but suite à une séquence où il y avait un joueur du DC United qui, en glissant au sol, avait touché le ballon avec la main. On n'est jamais allé à la reprise vidéo. Pourtant, c'est clairement indiqué que lorsqu'un jeu qui mène à un but, s'il y a une faute ou quoi que ce soit, on peut aller à la reprise. On n'est pas allé à la reprise. La semaine suivante, contre Chicago, l'Impact est dans la zone de réparation. Il y a un défenseur qui touche le ballon avec la main. Le ballon se retrouve derrière la ligne des buts. Il n'y a pas de pénalty d'appeler. Et en plus, on ne va pas vérifier à la reprise vidéo. Pourtant, c'est une main dans la zone de réparation. Et la semaine dernière, à Toronto, il semblait qu'il y avait possibilité d'un pénalty alors que le gardien du Toronto FC a fait trébucher Saphir Taider. On n'est même pas allé vérifier à la reprise vidéo. Arcadio, ce matin, j'ai parlé à quelqu'un qui travaille de façon étroite avec les arbitres sur le terrain et qui m'a dit on n'utilise pas la reprise parce qu'on a peur. On a peur de mal paraître. On n'y va pas souvent parce qu'on a peur de mal paraître. Et moi, ce que je dis, Arcadio, c'est à la Coupe du Monde, là, il y a eu des décisions qui ont été reprises. On parle des meilleurs arbitres sur la planète et pourtant, il n'y a personne qui a critiqué ces arbitres-là. Tout ce qu'on voulait, dans le fond, c'est la bonne décision.
Écoute, à la fin, la reprise, les gens chez eux, ils la voient tout le temps. Ils la voient
exact.
Soit
ils vont
en direct,
la voir quand même.
Ils vont la voir au sport le soir. Donc,
ils vont la voir.
Tu vas mal paraître sur le coup ou tu vas mal paraître plus tard. Mais si tu as pris la mauvaise décision, tu vas mal paraître même si tu ne vas pas à la reprise vidéo. Si tu y vas, au moins... Tu fais amende honorable et tu te donnes une chance de prendre la bonne décision. Donc, de ce côté-là, c'est je pense que c'est un problème culturel.
Explique-nous.
C'est que du côté des arbitres, en tant que professionnel, il y a encore justement peut-être cet élément de fierté de dire, moi, en tant qu'arbitre, je suis sûr d'avoir pris la bonne décision, je reste sur mon appel. Et faut pas oublier ce...
Une question d'orgueil.
Une question d'orgueil, une question de fierté professionnelle et une question culturelle. Et je pense que le fait aussi, il faut pas oublier ce petit règlement très important de la reprise vidéo, c'est que l'arbitre sur le terrain a le dernier mot. Il peut décider, même si l'officiel vidéo lui dit « Écoute, je pense vraiment qu'on devrait y aller », l'arbitre sur le terrain peut lui dire « Non, mon ami, je reste sur ma décision, je veux rien entendre ». Et je pense que c'est ça qui arrive un peu trop souvent à MLS.
Mais c'est un peu ridicule, Arcadio. Ah,
absolument. Moi, je suis d'accord avec toi, Philo. Il devrait mieux utiliser cet outil qui a pour objectif de démêler justement des situations qui, pour les arbitres, c'est pas une question qui sont pas bons. C'est une question que c'est difficile des fois au soccer de prendre la bonne décision. Le terrain est grand, il n'y a qu'un seul officiel sur le terrain. Après ça, bon, qu'un seul arbitre sur le terrain. Après ça, tu as évidemment les juges de ligne. Mais je pense que c'est un outil qu'il gagnerait à utiliser plus souvent. Je suis 100% d'accord avec toi.
Là, on vient de parler de trois séquences dans trois matchs. Là, on parle pas de trois séquences par match.
Ouais.
Mais quand il faudrait y aller, il faudrait y aller. Parce que
faudrait pas se gêner.
Ben, c'est ça, mais c'est ça qui arrive présentement. Ouais. On se gêne pour y aller parce que on l'avait clairement dit lorsqu'on avait instauré ce système il y a un an qu'on voulait pas que ça nuise
au
rythme du match. Mais il y a une limite entre toujours l'utiliser et ne jamais l'utiliser.
Tout à fait.
Parce que là, c'est très, très, très rare, Arcadio, qu'on va à la reprise vidéo et c'est en train de me demander c'est quoi la pertinence de l'avoir.
Et plus les matchs sont importants, moins souvent on y va. L'exemple de la Coupe du Monde là, est assez clair, selon moi. Durant la phase de groupe, là, on l'a utilisé très souvent, de manière la plupart du temps très juste. Et par la suite, là, à partir des huitièmes, les quarts, les demi, jusqu'à la grande finale, là, on l'a utilisé de moins en moins
pourtant,
à mesure que le tournoi avançait.
Ça devrait être l'inverse.
Exactement, tout à fait. Mais on a comme l'impression que ça vient dénaturer le jeu. Donc, c'est pour ça que je parle de encore une fois, peut-être une petite résistance culturelle qu'on a de manière peut-être sans trop s'en rendre compte. Et ça va changer, je pense, avec le temps, à mesure que cet outil va devenir plus, disons, naturel, surtout chez les nouveaux arbitres qu'on va former, les prochaines générations qui vont commencer à travailler avec cet outil-là déjà en place. Donc, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on en fasse un meilleur usage.
Bon, tranquillement, pas vite. Là, on voit les petits garçons, petites filles là, qui s'en viennent sur le terrain, qui vont accompagner les joueurs durant l'hymne national. Arcadio, parlons un petit peu des Red Bulls de New York qui, premièrement, en sont à un troisième match en 6 jours. Ils ont joué dimanche, ils ont joué mercredi. Et ils joueront ce soir.
Même un quatrième match en 9 jours parce que la semaine d'avant, ils avaient joué contre le Classico, contre New York City FC.
En milieu de semaine,
voilà.
T'as raison de le mentionner. Maintenant, moi, j'espérais que les Red Bulls allaient faire une certaine rotation ici ce soir. Malheureusement, leur rotation, ils l'ont fait mercredi.
Oui.
Bradley Wright Phillips, entre autres, n'était pas dans le 11 partant.
Kaku Romero, le numéro 10, le meneur de jeu argentin qui a été ajouté là, au début de l'année aussi. Donc voilà, les deux, disons, artificiers de l'attaque redoutable des Red Bulls ont été reposés mercredi.
Et en plus, ils ont gagné. Ça les a pas empêchés de gagner.
Ouais.
Les Red Bulls ont pris seul le premier rang de la Conférence de l'Est, en fait, le premier rang du soccer, de la MLS. Et ne semble pas du tout être gêné par qui que ce soit. Tu sais, quand tu as le luxe en milieu de semaine de sortir 5 partants et gagner quand même, disons que ça va bien, mais encore là, vous savez, ils font bien les choses des Red Bulls.
Ils ont gagné les deux matchs, en fait, leurs deux derniers matchs, ils les ont gagnés par la marque de 1-0. On ne brille pas nécessairement offensivement, mais défensivement, on fait un excellent travail.
C'est la meilleure équipe d'aller.
C'est incroyable. C'est incroyable de ce côté-là.
26 buts accordés cette saison?
Oui, 26 buts accordés
en
27 matchs.
C'est juste pour vous donner une idée, l'impact en a accordé 45.
Oui, presque le double. Donc, ça donne une idée. Là, et on en marque des buts, on est capable de générer de l'attaque. Et Atlanta, bon, est un point derrière, ils ont un match en main. Ça va être une belle lutte d'ici la fin là, pour le Supporters Shield entre ces deux équipes. Je pense que ça va se jouer entre ces deux-là. Mais encore une fois, une très belle machine de soccer. Le départ de Jesse Marsh au milieu de la saison aurait pu être un élément très négatif. On a fait une très belle transition du côté des Red Bulls avec Chris Armas qui a pris les commandes, qui a une fiche, je ne m'abuse, de 7 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls. Voilà, depuis qu'il a pris les commandes de cette équipe. Donc, il n'y a pas eu vraiment de cassure après le départ de Jesse Marsh. On a continué sur les bonnes bases qui avaient été jetées. Et c'est ça qui arrive aussi quand on a une fondation, on a des fondations solides. Armas, ça faisait 3 ans et demi qu'il était assistant. C'était devenu un des principaux, des généraux de Jesse Marsh. C'est lui qui gérait cette attaque dévastatrice des Red Bulls. Et bon, on voit ce que ça donne. Il y a de la profondeur, non seulement sur le terrain, mais il y a de la profondeur aussi dans les idées, dans l'identité.
Écoute,
du club.
Je vous dirais là, qu'il n'y a pas deux clubs qui sont plus différents que les Red Bulls et l'Impact dans leur façon de travailler. Parce que pendant que l'Impact embauche des joueurs pour une année et demie, une année plus option, les Red Bulls, eux, c'est complètement l'inverse. On fait monter des joueurs.
C'est organique.
Il y en a qui quittent Et il y a un nouveau jeune qui rentre et c'est lui qui prend la place et il est là pendant plusieurs
années. Mais c'est facile à faire parce que t'as déjà une structure, ils ont une équipe réserve aussi, donc ils savent à quoi ils jouent. Ils ont une identité de jeu très claire, donc quand un élément s'en va, ils savent exactement où quand il... Après, évidemment, quelques mois avant, quand on sait qu'un joueur, son contrat fini ou ainsi de suite, on est déjà en train de préparer la suite. On est déjà en train de dire, OK, on a besoin d'un gars avec tel profil et on fait travailler notre réseau. Ouais, c'est ce qui manque à l'Impact de Montréal, qui est en mode patchage plus qu'autre chose, malheureusement, depuis quelques années.
Ceci dit, Arcadio, quand je regarde la moyenne des assistances, crois-le ou non, les Red Bulls de New York, qui sont premiers dans la Ligue,
ouais,
ont en moyenne moins de spectateurs que l'Impact de Montréal.
Toujours compliqué au Red Bull Arena. C'est très désolant. Qui plus est, un magnifique amphithéâtre, un superbe stade de soccer qui rappelle les beaux petits stades de la Ligue anglaise. Là, c'est magnifique. C'est un peu loin, évidemment. C'est à Harrison, c'est au New Jersey, c'est pas à New York. C'est très accessible, par contre,
avec le train,
en métro, tout ça. Mais ce qui arrive, en fait, ce qui est vraiment désolant là-bas, c'est qu'autour du stade, il n'y a absolument rien.
C'est vrai.
C'est pas le type de destination. C'est pas une destination. Tu vas pour le match, après le match, tu t'en vas le plus rapidement possible.
C'est vrai.
et c'est ce qui est un peu dommage, parce que maintenant, tu vois les modèles, les nouveaux modèles, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des stades et autour, il y a des restaurants, il y a des salles de spectacle. Tu fais du magasin. Fait que les gens passent la journée là, avec leurs couleurs, avec leurs maillots. C'est une destination, ils viennent d'un peu partout. Et après, ils restent pour le match, ils retournent chez eux, ou même ils se prennent une nuit d'hôtel, parce que souvent des hôtels à proximité. Le Red Bull Arena a été construit à une époque où ce modèle-là n'était pas encore, disons, au goût du jour. Et c'est un gros manque à combler pour eux, malheureusement. Comme tu l'as mentionné, là, sportivement, ça va très bien. Ils ont un superbe stade, mais les foules ne sont pas au rendez-vous. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de supporters des Red Bulls qui se sont déplacés, peut-être une centaine, là, éparpillés un petit peu partout dans les tribunes de l'Impact. Mais chez eux, au Red Bull Arena, malheureusement, ils ne font pas nécessairement bonne figure.
Arcadio, ce soir, en plus d'avoir un œil sur le match, sur le terrain, nous allons faire ce qu'on appelle dans le monde du sport du scoreboard watching.
Yes.
Parce que il y a beaucoup de matchs. En fait, la majorité des équipes qui sont dans la course avec l'Impact jouent ce soir en même temps. Donc, à part le match ici, on va suivre New York City qui joue contre Columbus. Columbus qui est devant l'Impact, ils sont quatrième. On va suivre aussi le Revolution de la Nouvelle-Angleterre qui affronte les Timbers de Portland à 19h30. On va suivre aussi Philadelphie qui est devant l'Impact et qui affronte Orlando City. Pour eux, c'est un peu un cadeau puisque Orlando City, c'est présentement une des pires équipes de la Ligue, en tout cas la pire de l'Est. Et Toronto FC à 20h contre le Los Angeles FC. Moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai échangé avec les gens sur les médias sociaux. Je sais pas ce que t'en penses, Arcadio, mais pour moi, là, rendu au mois de septembre, j'essaierai d'éparpiller un peu dans la journée quelques matchs pour nous donner un peu le goût à la maison. Ah, ben je vais surveiller Toronto FC. Je vais regarder ensuite Philadelphie. Puis après ça, je m'en viens ce soir ici en sachant un peu ce que les autres ont fait et nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour... En tout cas, je sais pas, je trouve ça un peu plate de voir que tous les matchs sont en même temps. Et potentiellement, ici au Stade Saputo, on pourrait, à partir du mois de septembre, commencer à jouer un peu l'après-midi et tout cela. Moi, je pense que ce serait intéressant, mais bon, ça, c'est juste une idée. Mais plusieurs disent qu'on doit se battre avec le football collégial et tous les autres sports, et c'est compliqué. On va faire une petite pause, Arcadio, et au retour de ceci, les alignements partants et le début de ce match de soccer entre l'Impact de Montréal et les Red Bulls de New York. Vous écoutez le soccer de l'Impact sur une station Cogeco.